Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Cette musique, elle vous dit bien quelque chose. C'est peut-être le plus beau film du plus grand réalisateur de films d'animation. Bonjour tout le monde, on va parler d'Hayao Miyazaki ce matin dans le réveil culturel. Miyazaki qui n'arrête pas de retarder sa retraite maintes fois annoncée, et personne pour se plaindre bien sûr, son prochain film devrait sortir l'année prochaine. Titre provisoire, Comment vis-tu ? Mais aujourd'hui sort pour la première fois en salle son tout premier long-métrage, Le château de Cagliostro. Sébastien Bénédicte, mon invité, est l'auteur d'un essai autour de l'œuvre de Miyazaki, Hayao Miyazaki, Au gré du vent, publié par les éditions Rouge Profond.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Sébastien Bénédicte.
Bonjour.
Le château de Cagliostro sort donc enfin en salle. Il ne pouvait pas sortir avant pour des raisons de droit, puisque c'est une adaptation plus ou moins avouée des aventures d'Arsène Lupin. Vous l'avez vu pour nous. Est-ce qu'on peut dire que déjà la patte de Miyazaki est installée avec ce premier film ?
Alors oui, évidemment, bien sûr. C'est son premier film. En même temps, il a déjà une longue carrière dans l'animation. Notamment aux côtés de son compère Isao Takahata, pardon, avec qui il va fonder les studios Ghibli.
Alors vous dites Ghibli, hein, c'est Ghibli ou Ghibli ?
Ouais, on peut dire les deux en fait. Bon. En italien c'est Ghibli et en japonais c'est Ghibli. Oui, donc il commence avec ce film qui est l'adaptation d'une série télévisée que pas mal de petits Français de ma génération ont pu voir à l'époque à la télévision. Donc une série dont il n'est pas l'auteur complet, mais auquel il a participé, il a réalisé plusieurs épisodes, et donc il a été choisi à ce moment-là pour faire cette version longue pour le cinéma. Il faudra attendre un petit peu pour pouvoir voir Nausicaa, qui est vraiment son premier film personnel. Mais néanmoins, on a évidemment pas mal de choses qui sont déjà présentes dans ce cinéma-là, notamment le rapport qu'il a avec l'Europe, qui déjà se fait sentir. Bon, c'est une adaptation, comme vous l'avez dit, déguisée de Arsène Lupin. Mais c'est aussi, alors ça se passe dans une principauté, imaginaire, qui est plus ou moins inspirée de la Ruritanie, du prisonnier de Zenda, qui a donné un roman d'aventure qui a donné lieu à un film magnifique de Richard Thorpe, je crois, et toute une série de romans à l'époque, et une sorte de principauté un peu balkanique, comme ça, en même temps imaginaire, qui a aussi inspiré un autre grand dessinateur français, celui-là, et qui est Paul Grimaud, et c'est un cinéaste, notamment avec ce qui s'appelait pas encore Le Roi et l'Oiseau à l'époque, qui s'appelait La Bergère et le Ramoneur, avec beaucoup impressionné Miyazaki. Et
donc on retrouve... Qui le cite d'ailleurs très souvent, hein, en tête de liste de ses influences, bien sûr.
Oui, absolument, et donc pour revenir à cette histoire de principauté imaginaire qui est dirigée par un tyran, évidemment on connaît l'influence du roi de Tachycardie dans Le Roi et l'Oiseau, qui prend cette fois la forme d'un personnage qui s'appelle donc Cagliostro. Et alors, à la différence des films futurs, Cagliostro est un vrai méchant. Assez vite, enfin disons progressivement, mais assez vite, il va quitter ces personnages comme ça très caractérisés ou mauvais ou bons pour aller dans des choses beaucoup plus ambivalentes et profondes. Alors il y a quelques méchants comme ça dans ses premières œuvres, et c'est le cas de Cagliostro, qui est une sorte de docteur Mabuse, enfin avec une habite dans un château avec une surveillance, il a mis des caméras partout avec une espèce de vision panoptique des choses. Donc ça, par contre, ça va changer par la suite. Mais il y a déjà une prédilection pour les machines qui va se retrouver beaucoup dans la suite de son œuvre.
Le château de Cagliostro de Miyazaki, qui sort donc aujourd'hui au cinéma, vous avez bien fait de vous le préciser, c'est quand même un film qui n'a pas été voulu par Miyazaki. C'est une commande, hein, Sébastien Bénédicte. D'ailleurs, à cette époque-là, en 79, il y a tout juste 40 ans, les studios Ghibli n'existaient pas.
Non, pas encore. Ils travaillaient pour la Toei, notamment, et avec Takahata, ils ont été un des premiers, parmi les premiers à faire des grèves. Il y a eu une longue grève en 64 qui les a opposés au studio, donc on a déjà très vite un désir d'indépendance de la part des deux hommes.
ルパン三世。花嫁は頂きます。金月三条ルパン三世。花嫁はあの城の中。見つけ出せ。後始末は任せる。お前の子孫のをズタズタに引き裂いてやる。
Le château de Cagliostro de Miyazaki, premier film, réalisé il y a tout juste 40 ans, puisqu'il est sorti en 79 au Japon, sort enfin au cinéma aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça vous le savez, Sébastien Bénédicte, s'ouvre le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, 46e édition. Est-ce que Miyazaki a été aussi influencé par des dessinateurs?
Alors j'ai cité Paul Grimaud. Il y a une influence majeure, c'est le premier, mais comme pour beaucoup de Japonais, c'est le premier film d'animation long métrage en couleur japonais qui s'appelle La Légende du Serpent Blanc, si je ne m'abuse, qu'il a énormément impressionné quand il était petit. Après, il a très vite. Alors il y a une autre influence qui est évidente, et les personnels, c'est Takahata, qui a longtemps été son mentor. Et puis à son tour, il a influencé. Il y a notamment eu, il y a quelques années, à l'Hôtel de la Monnaie à Paris, une exposition qui montrait les influences, les correspondances en particulier qu'il y avait entre Miyazaki et Jean Giraud, dit Moebius, qu'on revendiquait l'un et l'autre une grande admiration.
Est-ce qu'ils se sont rencontrés?
Je crois qu'ils se sont vus déjà, oui.
Comment définir le trait de Miyazaki?
C'est surtout un animateur. C'est vraiment la qualité de l'animation. Il y a dans le film Neverending Man qui
est toujours en salle, qui est sorti il y a deux semaines, lui, qui est une interview hein, réalisée il y a deux ans, alors que
qu'on croyait voilà, qui est conduite sur plusieurs années. Ouais. Après qu'il ait dit vouloir s'arrêter au cours d'une conférence de presse assez officielle comme ça. Puis on se rend compte qu'il peut pas. Il a toujours le stylo, le crayon à la main. Il a une phrase dans ce film que j'ai retenue où il dit ce qui est important c'est le mouvement, c'est l'intention qu'il y a derrière le mouvement. En fait, il est aux prises avec une équipe comme ça qui fait il essaye de faire du cinéma en 3D
et de s'initier à cette nouvelle technologie. Voilà. Ça c'est, il est très intéressant ce film. D'ailleurs réalisé avec très peu de moyens, c'est vraiment un film d'un réalisateur amateur hein, ouais. Qu'on peut citer, Kaku Arakawa, qui apparemment est suffisamment proche pour de Miyazaki pour pouvoir le suivre aussi longtemps. On le voit effectivement Miyazaki, ses obsessions, c'est-à-dire vieillir, ne pas arriver au bout d'un long projet, parce que il faut rappeler ça nécessite beaucoup beaucoup de temps de réaliser un long métrage. Sa passion des nouvelles technologies, son questionnement et ses doutes, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à la 3D au monde numérique? Mais il y avait aussi quelques belles séquences où on le voyait dessiner.
Oui, mais c'est ce qu'il leur dit justement. À un moment donné, l'équipe leur montre une animation d'une chenille qui s'appelle Boro. C'est un court métrage qu'on n'a pas vu en France, mais
et qu'on attend d'ailleurs.
On attend Boro la chenille, et donc ils voient le côté mécanique de l'animation par ordinateur. Et c'est vraiment quelqu'un qui, de son époque, et qui s'intéresse aux nouvelles technologies, mais quand même, il veut toujours en revenir à la main, c'est ce qu'il y a de plus important pour lui. C'est l'intention qu'on met dans le trait, qui fait à mon avis son génie, au-delà de dessinateur, de vraiment d'animateur. Il a un vrai talent pour... Ce qui frappe vraiment dans ces films, c'est vraiment l'animation, c'est vraiment le mouvement. Quand on voit des films comme les courses-poursuites dès le château Cagliostro, quand on voit évidemment dans Princesse Mononoke la scène d'ouverture où Ashitaka et le héros est attaqué par une sorte de démon comme ça. Entre le premier plan et l'avant-plan, il y a un jeu de vitesse, il y a quelque chose qui vraiment dans l'animation qui est très très fluide. Et on a vu avec lui vraiment une modernisation de l'animation au sens d'un mouvement partout, parce que souvent on a des arrière-plans qui sont fixes. Si on regarde les premières séries sur lesquelles lui-même a travaillé, comme on en parlait, Edgar en France, Gentleman Cambrioleur, qui a donné pour cacher le nom de Lupin, et qui donne le château de Cagliostro quelques années plus tard. Sherlock Holmes également, avec des animaux.
Qui passe actuellement sur Netflix.
Oui, absolument. Est visible sur Netflix. Et quand on voit les dessins animés de cette époque-là, il est fréquent qu'on voit des visages fixes, avec seulement la bouche qui va bouger. L'animation est très très centrée sur soit des parties du corps, soit et très peu sur les décors. Le grand apport de Miyazaki, il est pas tout seul, hein, il y a Takahata aussi. C'est un long métrage qui s'appelait Horus, prince du soleil, qui a été réalisé dans les années 60 et qui est le premier essai vraiment d'animation à grande échelle pour un studio, comme vous l'avez dit, qui n'est pas encore le sien, mais qui tout de suite marque par sa qualité d'animation. On va commencer à faire bouger toutes les parties et du dessin et voilà.
Le mouvement, c'est-à-dire la mise en scène, et c'est effectivement très important dans le cinéma de Miyazaki. D'ailleurs, dans l'essai que vous consacrez à cet auteur, à ce grand maître du cinéma d'animation, essai intitulé « Hayao Miyazaki au gré du vent » publié par les éditions Rouge Profond, vous insistez là-dessus, mais vous parlez aussi des thèmes récurrents de Miyazaki. Je voudrais que vous nous racontiez, Sébastien Bénédicte, quel est votre rapport à ce cinéma, comment vous avez découvert les films de Miyazaki et comment êtes-vous arrivé du cinéphile à admirateur de la patte de Miyazaki jusqu'à faire cet essai sur son cinéma.
Alors, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai découvert Miyazaki sans le savoir, parce que je m'étais pas à l'époque un nom dessus, puis j'étais enfant tout simplement, et il y a eu une période de fin des années 70, début des années 80, où le Japon établit un partenariat dans l'animation avec la France. Je pense notamment quelqu'un comme Jean Chalopin, qui a fait pas mal de séries avec des dessinateurs japonais, Ulysse 31, Inspecteur Gadget, etc. Et au milieu de tout ça, j'ai découvert enfant des séries comme Edgar, Gentleman Cambrioleur, comme Sherlock Holmes, qui était pour la plupart réalisé par Miyazaki. Et puis une série télévisée dont il est totalement l'auteur et qui est très intéressant de revoir aujourd'hui, qui a 26 épisodes, qui s'appelle Conan, le fils du futur. Et c'est assez étonnant, dans cette série, on a tout Miyazaki déjà. Tous ces thèmes sont rassemblés, tous les cas de figure. Donc c'est vraiment un cinéaste obsessionnel.
C'est à partir de cette série que vous avez retenu son nom, Hayao Miyazaki.
C'est beaucoup plus tard, en 92, avec la sortie de Porco Rosso, où j'étais dans une période où je regardais plus beaucoup. J'étais adolescent, je crois, à cette époque. Ouais, oui. Je m'intéressais beaucoup moins au côté un peu brouillé fureur qu'il y avait dans les séries japonaises de l'époque. Et là, c'est le premier film où il y avait une espèce de plénitude, une vraie attention aux choses, un calme souverain, et une histoire qui était tout sauf manichéenne. C'est l'histoire d'un aviateur qui a été transformé en cochon. On ne sait pas pourquoi, on ne saura jamais pourquoi d'ailleurs. Et on est dans l'Italie des années 20, dans l'Italie pré-fasciste, dans le milieu des aviateurs qui sont en compétition les uns avec les autres autour de personnages assez truculents et en particulier féminins. C'est l'élément féminin aussi qui m'a attiré, le traitement des personnages féminins qui m'a attiré dans son cinéma. Et puis à partir de là, j'ai commencé à voir tous ces films quand ils pouvaient sortir, parce qu'ils sont tous sortis en France, comme Le Château de Cagliostro, bien après leur sortie au Japon. Et je pense que c'est vraiment avec la Princesse Mononoke en 99, en France il est sorti, en 97 au
Grand
Japon,
succès, et consécration.
Que, la France a accueilli à bras ouverts le cinéma de Miyazaki, et à partir de 2001, du Voyage de Chihiro, donc, qui pour moi est son chef-d'œuvre, là, ça a commencé à sortir en temps et en heure, et puis on a redécouvert tous les anciens films.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Sébastien Bénédicte, auteur d'un essai consacré au cinéma d'Hayao Miyazaki au gré du vent. On parle de Miyazaki aujourd'hui puisque son premier film, son tout premier film, Le Château de Cagliostro, sort aujourd'hui au cinéma. Ça, c'était bien sûr une fois de plus la musique de Princesse Mononoke. Bien sûr, c'est un film qui a marqué quand même le cinéma d'animation, ne serait-ce que pour ce personnage de cette princesse sans prince, mais avec des louves, sa détermination. Vous disiez d'ailleurs, Sébastien Bénédicte, que ce qui vous plaisait adolescent, c'était le fait de voir qu'il y avait des femmes très fortes, des héroïnes dans le cinéma de Miyazaki.
Oui, alors avec Le Château de Cagliostro, pas encore. On a encore ce personnage qu'on va retrouver notamment dans Le Château dans le Ciel, qui je crois est le premier film des studios Ghibli. Cette héroïne comme ça très fragile, qui va être aidée par un petit garçon dans Le Château dans le Ciel. Dans la série dont je parlais tout à l'heure, Conan, le fils du futur, c'est aussi le cas. On a un couple d'enfants qui s'entraident comme ça. Là, la princesse du château de Cagliostro, elle est encore ce personnage fragile qui est enlevé par l'infâme Cagliostro, qui va donc être aidé par Lupin, enfin celui qui s'appelle maintenant Lupin, après s'est appelé Edgar en France, et Wolf, je crois, pour la version internationale. Ce personnage, tout en restant très féminin, va s'autonomiser très vite, très très vite, puisque Nausicaa, qui est d'abord un manga, qu'il a adapté, qui est beaucoup plus long et complexe que ne l'est le film. Le film est somptueux pour... bien sûr. Et Nausicaa, c'est le premier personnage de femme guerrière qu'on va retrouver notamment quelques années plus tard dans Princesse Mononoke, sur un schéma assez similaire d'ailleurs, avec l'opposition entre deux femmes guerrières, et qui n'a pas les limites besoin des hommes. Voilà, Kegli Oustrone est encore dans cette idée du chevalier servant qui va... Mais il y a aussi un personnage intéressant dans Kegli Oustrone, c'est le pendant féminin de Lupin, qui s'appelle Fujiko Miné, je crois. Donc il y a un jeu de mots relatif à sa poitrine qui ressemble au mont Fuji. C'est pas trop le style de Miyazaki, c'est quelqu'un d'assez prude, il n'y a pas beaucoup de sexualité dans ses films, donc ça lui appartient pas en propre, mais en tout cas il y a ce personnage de femme fatale qui est absolument légale du héros et qui n'en fait vraiment qu'à sa tête, et voilà, il y a presque une sorte de compétition amoureuse professionnelle et amoureuse entre eux, qui déjà engage vraiment son cinéma sur la voie d'une certaine modernité.
Voilà, ceci explique pourquoi on a toujours dit ces dernières années que Miyazaki était à l'avant-garde des combats d'aujourd'hui, puisqu'il a été féministe avant l'heure, il a été aussi, et surtout, écolo avant l'heure.
Absolument, Nausicaa est déjà une fresque écologique. C'est un des premiers à avoir mis en garde sur la nécessité, enfin l'urgence même, du développement durable. Il n'a rien contre la technologie en regard de la nature. Hein. C'est pas
non, parce qu'il adore les avions, par exemple,
les trains, les machines.
Ouais, ouais.
Donc Kegli Oustrone, il s'intéresse beaucoup dans l'animation de l'horloge avec des engrenages, l'horloge du château, où il y a la scène finale, où la scène finale, pardon, se déroule entre Kegli Oustrone et Lupin. Il y a une scène de combat qui est absolument merveilleuse, très inspirée de Grimaud, là encore. À l'intérieur des rouages d'une horloge. Il s'intéresse à tout ce qui est mécanique, au génie technologique des hommes. Juste un petit exemple rapide, c'est dans un autre film dont j'ai pas parlé, qui s'appelle Kiki, la petite sorcière.
Oh, bien sûr, très beau film
où
aussi.
En arrière-plan des aventures de Kiki, donc Kiki c'est une sorcière qui a le pouvoir de voler sur un balai, mais pour elle c'est son quotidien de sorcière. Elle est autant, sinon plus, très inspirée par le vol d'un dirigeable. En arrière-plan de ses aventures, donc un dirigeable qui doit décoller. Et ça c'est le génie technologique humain, et pour elle c'est de la magie, autant qu'inversement pour les hommes, Kiki est un personnage magique. Et Miyazaki met vraiment à égalité et la magie elle-même et la technologie. Donc il est écolo, parce que la technologie doit évidemment aider, se faire dans un certain équilibre avec la nature. C'est toute l'histoire du c'est presque un diptyque de Nausicaa et Princesse Mononoke surtout. C'est cette idée d'équilibre entre la nécessité de rentrer dans l'ère moderne avec la technologie et le respect de la nature. Je rappelle que les Japonais sont animistes profondément, et que le cinéma de Miyazaki est profondément animiste. Il y a un dieu derrière toute chose, ce qu'on appelle les yokai, les kami. Tout ça est habité, hein, la forêt est habitée, les animaux sont des divinités. Voilà. Donc il y a un respect profond de la nature, ce qui n'exclut pas la technologie, mais à condition évidemment de le faire avec intelligence et équilibre.
On va écouter la voix de Miyazaki.
もちろんその間、映画を作り続けたわけではなくて、シナリオを書いたりとかですね、自分の道楽の漫画を書いてたりとか。
Alors là, il déclare qu'il va prendre sa retraite, cette annonce de Miyazaki. Il a dû la faire combien de fois ces dernières années ? Comment vous l'expliquez d'ailleurs, Sébastien Bénédicte ? C'est un homme qui a peur de ne pas terminer un long métrage parce que ça prend beaucoup de temps, ou c'est un homme angoissé par la mort, comme on a pu le voir dans ce documentaire qu'on peut toujours voir au cinéma, qui est Neverending Man.
Oui, il l'explique dans Neverending Man. Bon, ses forces déclinent, il dit qu'il a du mal à tenir un crayon. Alors bon, c'est pas forcément exact, mais enfin, on sent que physiquement il y croit plus trop, et en même temps, c'est ce qui rend le documentaire très touchant, en même temps bah il sait faire que ça. Enfin, il n'envisage pas de continuer d'attendre la mort sans surtout, avoir un crayon à la main. Quoi.
Même s'il continue à fumer à son âge,
il
est en bonne santé, Miyazaki.
Oui, il n'est pas en trop mauvaise santé. Enfin, apparemment, de ce qu'on voit dans le film. Alors, ce qui est assez triste, c'est qu'il y a beaucoup de ses proches, de ses collaborateurs qui meurent autour de lui. Ce fut le cas aussi, hélas, de Takahata quelques mois après la fin du film. Et donc, il se retrouve un petit peu tout seul, un peu perdu avec sa façon de voir, je disais, sa prééminence de la main, hein, dans le travail de l'animation. Et il se retrouve un peu perdu, et en même temps, il peut pas s'empêcher, il se passera pas une journée sans qu'il prenne pas un crayon, il ne peut pas vivre sans projet, voilà. Il peut pas, c'est impossible, puis ça se comprend, attendre la mort comme ça sans rien faire.
Alors, au cinéma sort aujourd'hui Le Château de Cagliostro. Pour dire la vérité, les vrais fans de Miyazaki l'ont déjà vu, hein. Est-ce qu'il y a une bonne raison d'aller le voir, ce grand écran, ce film, ce premier long métrage de Miyazaki, Sébastien Bénédicte, pour terminer?
Ah ben c'est un pur film d'action, donc sur grand écran bien sûr. Et là, on voit déjà le génie de l'animation dans les scènes d'action de Miyazaki, et ça prend une dimension beaucoup plus frappante encore sur un grand écran.
Je rappelle le titre de votre essai consacré à Hayao Miyazaki, Au gré du vent. C'est publié par les éditions Rouge Profond. Merci Sébastien Bénédicte d'avoir répondu à mon invitation.
C'est moi, merci beaucoup, merci à vous.